Ohé, tu bouges, dis quelque chose, respire, tiens-toi droite. Faut-il avoir peur de la mort pour crier « Je suis vivant, je suis vivante » Super, génial, extra, c'est le festival de la littérature vivante. Elle est vivante, cela se dit et se clame. Santé.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Comme chaque année depuis 5 ans, le Centre Pompidou organise un festival dédié à la littérature vivante, avec des performances, une expo, des rencontres avec des auteurs ou des autrices, ou encore la remise du prix Bernard Heitzig qui récompense un auteur de poésie sonore. Mais pourquoi ce mot de vivante? Réponse peut-être avec deux de nos contemporains qui sont aujourd'hui dans ce studio. Bonjour Marc Geffriot.
Bonjour.
Vous n'êtes pas écrivain, mais bien vivant.
Oui, à ce que je sache.
Vous me le confirmez. Que vient faire un artiste plasticien, puisque c'est votre cas, dans un festival de littérature?
Ça, c'était le souhait de Jean-Max Collard, qui est à l'initiative du festival, de trouver un endroit qui peut marier justement à la fois la littérature et les arts plastiques, arts vivants.
On est au Centre Pompidou, c'est-à-dire dans le plus grand musée d'art contemporain français,
voilà.
Voire d'Europe.
Et bon, après, c'est aussi l'ADN du Centre Pompidou, hein, que de faire des liens entre les disciplines, donc je pense que c'était pour aller dans ce sens aussi.
Mais par ailleurs, votre travail est de nous raconter des histoires. Il y a du récit dans votre travail plastique.
Oui, assez souvent, pas toujours, ceci dit, parce que ma pratique est assez variée, mais là, en l'occurrence, pour le toast, oui, c'est vraiment du récit.
Et l'histoire est un élément plastique?
Oui, je pense. Mais...
Avec vous, Thomas Clerc, bonjour.
Bonjour.
Pas de doute, vous êtes écrivain. 8 livres parus déjà, dont le dernier en date chez Gallimard, intitulé « Cave ». Comment définissez-vous une littérature vivante?
Une littérature vivante, je crois que c'est une littérature qui met peut-être à égalité l'écrit et l'oral. Je dirais ça comme ça, tout simplement. Je dirais que la littérature, évidemment, dans l'esprit commun, est plus liée à l'écrit, au texte, à la page, au livre, ce qui, évidemment, est sa définition, disons, tout à fait acceptable. Mais cela s'est fait, il faut bien le dire, historiquement, au sacrifice, au détriment de toute l'oralité. Et l'oralité, c'est quand même aussi, évidemment, d'un point de vue culturel et d'un point de vue de la création proprement dite, du rapport au langage, quelque chose d'extrêmement important.
Mais une littérature vivante au XXIe siècle, est-ce que cela suppose de la recherche, de l'expérimentation, ou est-ce que c'est la nature même de la littérature d'ailleurs?
Alors, si on pense, comme je viens de le dire, que la littérature pour moi est au fond à deux facettes au minimum, hein, que seraient donc l'oral et l'écrit, je crois qu'il faut absolument maintenir et nourrir cette compénétration finalement entre l'écrit et l'oral. Mais il y a aussi d'un point de vue historique, je crois, un lien très fort des avant-gardes entre, disons, la littérature et les arts plastiques, entre, disons, le langage et la voix, entre la page et le corps. C'est-à-dire, au fond, je crois que les avant-gardes ont toujours cherché à marier cette double dimension, finalement, de la page et du corps.
Mais peut-il, Thomas Clerc, y avoir des auteurs contemporains qui feraient une littérature morte?
Certainement.
Je ne demanderai pas des noms,
non.
Est-ce que ça existe?
Mais disons qu'il existe effectivement toute une part de la littérature qui m'intéresse d'ailleurs assez peu, je dois le dire, qui se cantonne finalement dans simplement l'écriture de romans bien ficelés, qui peuvent être agréables à lire, encore une fois, mais qui restent, si vous voulez, dans une conception un peu, disons, 19e de la littérature. Voilà, on écrit un bon roman et la littérature finalement est cantonnée dans l'espace, enfermée, confiné, j'ai envie de dire, dans l'espace du livre. Et voilà, moi, je trouve que la littérature a pour vocation, au contraire, de ne pas être enfermée seulement dans le volume, surtout à une époque où le livre vit, disons, enfin, c'est non pas ses derniers instants, heureusement, mais enfin, en tout cas, il n'est qu'un médium parmi d'autres. Disons.
Alors, c'est vrai que ce festival extra défend la littérature hors le livre. C'est en tout cas ce que nous expliquait Jean-Max Collard, le directeur de ce festival, lors de sa création.
La vie littéraire a changé.
pendant deux siècles, elle a été effectivement entièrement dominée par le livre, qui était à lui seul une sorte d'espace public un peu abstrait. On jetait le livre dans l'espace et puis voilà, il faisait son chemin. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, l'auteur accompagne son livre. Il vient dans les médias, il vient sur scène, il va dans des librairies pour signer le livre, il va dans des médiathèques et puis il monte aussi sur scène. Par exemple, il y a quantité de lieux aujourd'hui en France où les auteurs se produisent sur scène, font des lectures même parfois très fortes, très performées. Donc nous, c'est toute cette situation. Puis évidemment, toutes les nouvelles technologies sont des lieux aussi où la littérature se propage selon d'autres manières. Par exemple, quand on prend YouTube, YouTube, c'est à la fois un lieu où des écrivains archivent des œuvres ou des performances même qu'ils peuvent faire. Et puis c'est le lieu aussi où plein de lecteurs conseillent des livres à d'autres. Donc c'est toute cette nouvelle vie littéraire que veut être le festival. Au fond, c'est un festival de la vie littéraire telle qu'aujourd'hui, elle se donne à nous.
Donc un écrivain est plus qu'un écrivain, si je comprends bien Jean-Max Collard. Thomas Clerc, voilà donc condamné à être quoi, un geek, un youtubeur, un acteur, un lecteur, un performeur. Ça fait beaucoup pour un seul homme.
Tant mieux, nous sommes multiples, nous sommes pluriels, mais il ne faut pas oublier que historiquement, par exemple, même au 19e siècle, la littérature existait dans les salons. Mallarmé, par exemple, recevait tous les mardis chez lui, rue de Rome, un certain nombre d'écrivains et d'artistes, et il se passait des choses assez mystérieuses pendant ces soirées. C'était des petites lectures, des conversations. On ne sait pas exactement d'ailleurs tout ce qui se passait, c'était peut-être aussi des échanges. Il y avait aussi toute une sociabilité qui passait par l'oral, par des rencontres, par des échanges et aussi dans les manifestations d'avant-garde dans les années 20, le surréalisme, etc. Donc il y avait bien une littérature qui cherchait déjà à se déplacer, je dirais.
Marc Geffrio, quel rapport le plasticien entretient avec l'objet livre et avec la littérature qui est contenue dans un livre? Je vous interroge alors que vous avez vous-même un livre qui est un catalogue que vous avez conçu comme objet plastique, justement.
Oui, mais alors dans mon cas, c'est le procédé inverse, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait des performances et par la suite, j'ai fait un livre à partir du moment où j'avais réuni un certain nombre de toasts. Donc j'avais commencé à en donner à partir de 2011, vraiment dans une circonstance d'une invitation d'un ami pour l'ouverture d'un lieu, etc. J'ai fait un toast et puis je ne pensais pas en faire d'autres. Puis finalement, on m'a invité à en faire d'autres. Dans diverses circonstances, centres d'art, musées, etc. Et puis, progressivement, m'est venue l'idée de faire un livre. Et j'ai repris donc tous les scripts que j'avais pu travailler pour les performances et je les ai retravaillés en vue de faire un livre.
Un toast, c'est-à-dire un petit discours de salutation et d'hommage.
Alors en fait, à l'origine, oui, c'est comme ça qu'on l'entend. Finalement, le toast, si on revient sur son histoire, on pense en tout cas qu'elle dérive des libations, qui était donc une forme notamment en Grèce ancienne, etc., où on versait un peu de son verre au sol pour honorer les dieux, etc. Et donc moi, à chaque fois, j'essaye de trouver une forme qui dérive du toast, de cette idée de se lever et de prendre la parole, et de l'amener vers autre chose, peut-être justement une situation qui se développe et qui intègre aussi le public.
Dans un toast, on peut chanter ?
Ben là, c'était le cas cette fois-ci, c'était la première fois. C'est pas moi qui ai chanté, c'est Géraldine Longueville qui était au micro de l'accueil du centre pour annoncer la fermeture du centre, inviter les gens donc à sortir et à boire un verre dehors, puisqu'on ne pouvait pas boire de verre à l'intérieur. Et donc, la chanson, c'était l'annonce de fermeture du centre, cette fois-ci. Oui.
Et puis, il y a aussi des interprètes, des chanteurs invités au Festival Extra. C'est le cas de Esprit Noir, invité pour son nouvel album, notamment État d'Esprit, sorti fin août.
Je lève les yeux au ciel, j'ai la tête à l'envers. J'ai quitté l'école, je savais même pas comment faire. Mais je connais les codes, ces bâtards peuvent pas me la faire. Je préfère finir sous terre que enfermé à Nanterre. Je lève les yeux au ciel, j'ai la tête à l'envers. J'ai quitté l'école, je savais même pas comment faire. Mais je connais les codes, ces bâtards peuvent pas me la faire. Je préfère finir sous terre que enfermé à Nanterre.
Une porte se ferme quand une autre s'ouvre. J'ai pris exemple sur mes grandes sœurs. Je suis fier de moi, je suis nu d'en dessous. Jamais j'oublie, c'est dans mon cœur. Car beau, je suis comme le four, je suis comme les fous, je suis déjà mort frère. J'attends de m'en faire sur un autre coup. J'embrasse la vie, je bois un autre verre. J'ai tout appris en bas. Faut pas que
que je me rends pas pour des euros. Cette vie n'est pas rentable. J'ai grandi à Sevran, la Neuzeau. Que c'est d'être à la maison. Les huissiers qui montent ma misère. J'ai volé, braqué. Je voulais juste changer ma vie de merde. Même quand ça change, en vrai ça change pas. Les problèmes grandissent. Je rappe depuis que je suis petit. Je pensais pas que j'aurais pris du fric. Les gens changent, bourré, je t'oublie tous les soirs. Tu m'as laissé dans mes galères, je suis con d'avoir cru en toi, je perds plus mon temps. Les traîtres, faut qu'ils m'entendent. Moi j'ai vu des faux, mais le lâche, c'est le plus gros bâtard. J'ai 40 000 défauts, mais je suis là si tu comptes pour moi. J'ai pas vu leur mandat, pourtant j'ai tourné 2 ans. J'ai appris la mentale, y'a quelques mecs, j'y sais de mes grands. Je donne l'argent à maman, y'a quelqu'un le droit de tout me prendre. La vie m'a tranché le cœur, faut que je m'éloigne pour un moment. Et celui qui a tout vu, j'ai même pas ce qu'il peut m'apprendre. En vrai,
je lève les yeux au ciel, j'ai la tête à l'envers. J'ai quitté l'école, j'savais même pas comment faire. Mais je connais les codes, ces bâtards peuvent pas me la faire. Je préfère finir sous terre que enfermé à Nanterre. Je lève les yeux au ciel, j'ai la tête à l'envers. J'ai quitté l'école, j'savais même pas comment faire. Mais je connais les codes, ces bâtards peuvent pas me la faire. Je préfère finir sous terre que enfermé à Nanterre.
Une porte se ferme quand une autre s'ouvre. J'ai pris exemple sur mes grandes sœurs. Je suis fier de moi, je suis venu d'en dessous. Jamais j'oublie, c'est dans mon cœur. Car beau, je suis comme le four, je suis comme les fous, je suis déjà mort frère. J'attends de m'en faire sur un autre coup. J'embrasse la vie, je bois un autre verre.
Esprit Noir sur RFI avec ce titre Cérémonie Inutile, extrait de son nouvel album. Esprit Noir était l'invité lundi du festival Extra, ce festival dédié à la littérature vivante au Centre Pompidou, avec tous les soirs aussi Thomas Clerc vers 18h30 qui joue à Monsieur Toast. C'est un rôle que vous jouez ?
C'est une très bonne question. Je ne saurais pas trop dire. C'est à la fois moi et une version de moi-même, je dirais. C'est-à-dire, c'est comme ça d'ailleurs que j'envisage souvent l'écriture. C'est-à-dire que je me mets en scène, au fond, dans mes livres et aussi dans mes performances. Et il y a une part de moi, peut-être 70% de moi et 30% de quelqu'un d'autre que moi. Mais je ne saurais pas dire exactement si le pourcentage est valable.
Mais pourquoi l'écrivain que vous êtes a besoin de faire des performances, d'être sur scène d'une certaine façon?
C'est une très bonne question parce que je pense que, d'une certaine manière, je suis un acteur raté et je crois qu'il y a un lien très profond évidemment entre l'écriture et la scène. Le théâtre est quand même par exemple un genre littéraire aussi, on peut pas l'oublier, la poésie est aussi en partie orale. Je ne suis devenu performeur qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire j'ai commencé évidemment par écrire et j'avais toujours besoin de lire les textes. J'aime beaucoup lire mes textes aussi parfois de façon classique et j'ai eu besoin d'aller plus avant, c'est-à-dire de m'engager plus d'un point de vue, je dirais, physique, oral, vocal. Le travail de l'écrivain, il faut quand même le dire, est un travail austère. Il y a quelque chose de très austère dans l'écriture. Et je trouve que ce n'est pas rendre hommage à la littérature que de la ramener à cette austérité. Je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de... Enfin, tous les grands écrivains l'ont dit, hein, que ce soit Flaubert ou des gens comme ça. Il y a quelque chose d'ennuyeux aussi dans l'écriture. Alors que, évidemment, le fait de porter le texte et le verbe sur une scène, au contraire, a quelque chose de plus jouissif.
Donc vous voulez partager
oui.
aussi. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans votre toast, oui. vous rendez hommage oui. à la littérature écrite au livre.
Tout à fait, car je veux, d'une certaine manière, aussi... Je suis un fétichiste du livre, hein. je ne veux pas donner à penser l'idée que je suis contre l'écrit ou quoi que ce soit, pas du tout. Au contraire, la performance est une façon aussi de faire vivre, non serait-ce que l'objet livre. Par exemple, je fais assez souvent des performances avec des livres, par exemple des combats de livres, par exemple, ou des dialogues fictifs entre divers livres. J'écris aussi sur scène, en quelque sorte, hein. Là, j'ai retranscrit par exemple un poème de Baudelaire, lettre par lettre, en faisant apparaître le poème sur une feuille de papier, les A d'abord, les B ensuite, les C, etc. Ad libitum, jusqu'à ce que le poème apparaisse. Donc il y a aussi, au sein même de la performance, il y a un hommage à la chose écrite. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est une performance littéraire, en un sens.
Marc Geffrio, est-ce que vous faites, vous aussi, des performances littéraires? Parce que si on fait un peu d'histoire, vous commencez à réactiver le toast en 2011, c'est ce que vous nous avez dit, donc vous avez une antériorité sur Thomas Clerc. Est-ce que c'est aussi pour donner cette puissance orale, ce partage à la littérature écrite?
Alors moi, à l'origine, non, je ne pensais pas du tout en termes de littérature. C'était plutôt la spécificité de l'adresse du toast qui m'intéressait, puisqu'en fait, quand on porte un toast, d'une certaine manière, on parle au nom de tout le monde et on s'adresse à une seule personne, c'est souvent le cas. Et ça m'intéressait, c'est un peu l'inverse du discours politique où il y a une personne qui s'adresse à un groupe. Là, c'est par l'entremise d'une personne, en tout cas le groupe qui s'adresse à la personne qui a organisé, par exemple. Et pour moi, c'était une occasion de questionner la nature même de l'invitation. En gros, pourquoi on m'invite? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est le groupe qu'on constitue ensemble, etc. Puisque finalement, le toast revient à ça, à célébrer en tout cas la réunion, l'assemblée qui se trouve là, pour une circonstance particulière. Et donc moi, c'est vraiment la nature même de cette adresse qui a fait que j'ai eu envie de faire des toasts.
Et c'est donc vous qui avez ouvert ce festival extra la semaine dernière par un toast.
Exactement. Voilà, c'était l'invitation donc de Jean-Max Collard à faire l'ouverture de ce toast parce qu'il avait connaissance des toasts que j'avais pu porter auparavant, et donc il lui a semblé naturel de m'inviter pour l'ouverture, puisqu'il le plaçait sous le signe du salon littéraire, et qu'on sait que dans les salons littéraires de la fin du 19e siècle, le toast avait une part assez importante.
Mais c'est vraiment là que le toast s'invente, dans les salons littéraires, parce qu'il y a aussi des toasts politiques, quand la reine d'Angleterre vient à l'Élysée, quand dans un mariage, on va faire un toast aux jeunes mariés. L'origine est la littérature, l'origine est le salon littéraire.
Non, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un dérivé effectivement d'une forme qui était au départ la libation, puis apparemment ça a même donné naissance au stand-up comedy, c'est-à-dire que c'est cette idée de se lever stand-up pour prendre la parole a donné aussi par exemple cette forme-là de prise de parole, donc elle est assez multiple, effectivement elle peut avoir lieu généralement dans des banquets, des choses comme ça, et il y a une nature conviviale, en tout cas.
En tout cas, pour ce festival extra, vous avez porté un toast, notamment au Centre Pompidou, c'est logique, en repartant du discours de Valéry Giscard d'Estaing lors de l'inauguration du Centre Pompidou en 1977.
Sur le site de l'INA, j'ai trouvé le JT de TF1 qui date du lendemain de l'inauguration, dans lequel est retransmis un extrait du discours de Valéry Giscard d'Estaing. Pendant qu'il s'adresse à une assemblée invisible, on aperçoit dans son dos, en contrebas, quelques visages hagards qui pivotent dans tous les sens, à la recherche sans doute d'un point sur lequel fixer leur attention. Le président ne prononce pas un mot sur le centre qu'il inaugure, réservant tout son discours à une éloge en demi-teinte de son prédécesseur, qui cherchait, selon lui, à protéger la France contre elle-même.
Le président Pompidou, malgré l'inévitable clivage politique qui fragmente notre pays, méritait le nom de président de tous les Français.
Fin de la séquence et retour au plateau du JT pour un nouveau sujet.
Geffriot, Giscard, les deux G de cette émission et de ce toast. Y a-t-il, Marc Geffriot, des règles à respecter ou pas
pour moi, le discours de Valéry Giscard d'Estaing était l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que je l'ai pris comme contre-exemple. Pour dériver ensuite sur autre chose qui était un plan de Rossellini, qui n'est certes pas un toast, mais qui en revanche considère le public et met à l'honneur justement les gens qui viennent dans le centre et non les politiques qui sont peut-être à l'origine du centre, mais qui, encore que Valéry Giscard d'Estaing, même pas, je crois qu'il détestait le centre Pompidou et que...
Oui, c'est Pompidou qui crée le centre.
Et c'est Pompidou qui crée le centre.
Il meurt avant l'inauguration.
Pompidou n'aimait pas particulièrement l'architecture du centre non plus.
Thomas Clerc, comment vous travaillez-vous vos toasts? Comme un roman?
Je reprendrai un petit peu ce que disait Marc Geffriot sur la question de l'adresse. Ce qui est pas mal, c'est, je trouve, de faire des toasts à des vivants, mais aussi à des morts. Donc j'ai fait des toasts, j'ai fait un toast à Mallarmé, j'ai fait un toast à Baudelaire, je voudrais porter un toast au général Rossel, par exemple, qui est un héros de la Commune, qui est le seul général de l'état-major à avoir rejoint les rangs de la Commune. Par exemple, j'aimerais lui porter un toast, je ne sais pas encore exactement sous quelle manière. Et puis j'ai aussi porté un toast à des amis, à des invités que j'ai fait venir à l'intérieur de ma performance et qui ont, à leur tour... dit leur poème, réaliser une performance, montrer un film. Hier soir, par exemple, j'ai invité mon ami Noël Herpe, et nous sommes arrivés sur scène dans les costumes du film qu'il a réalisé, La Tour de Nesle, et nous avons regardé un instant, devant le public, bien sûr, un extrait de son film.
Donc la forme est vaste, variée et ouverte.
Voilà, c'est exactement ce que j'aime, d'ailleurs. Hein, c'est cette
variété. Quand je vous ai vu au Centre Pompidou, vous avez fait un résumé du toast précédent, comme dans les feuilletons à la télé. Vous avez lu des poèmes présents présenter des livres, réaliser votre autoportrait, pas toujours flatteur, et raconter aussi comment la lecture des livres vous permet de lutter contre la peur.
Oui.
C'est vrai ?
Oui, il y a une performance, par exemple, qui s'appelle « J'ai peur », où j'apparais effectivement muet dans un costume sombre avec une pancarte sur laquelle est écrite « J'ai peur ». Et je me contente de déambuler dans le décor. J'aime bien tenter ce genre de choses, donc ça peut être muet, mais vous voyez bien qu'il y a aussi du langage. Hein, il y a un langage qui est muet et qui est porté par un personnage énigmatique qui est donc à la fois moi et mais un moi un peu sombre, on pourrait dire. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce mot de variété que vous avez prononcé. La performance est une forme extraordinairement libre. C'est ça que j'adore.
Mais est-ce que la littérature vous permet de lutter contre la peur ? Vous n'avez pas répondu.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. On pourrait penser à la phrase que Roland Barthes met en épigraphe du plaisir du texte. La grande passion de ma vie a été la peur. Et donc, la littérature, d'une certaine façon, est une manière de briser, de corrompre cette peur. Oui.
Marc Geffrio, vous diriez la même chose ?
Alors, la peur, c'est pas quelque chose que j'adresse directement. La littérature, c'est sûr, en tout cas, m'apporte beaucoup. Je lis beaucoup, même si finalement j'écris peu, ça m'arrive, mais j'écris relativement peu. Mais c'est une grande source d'inspiration, ça c'est sûr, dans mon travail, beaucoup plus finalement que pourrait l'être, je sais pas, des ouvrages théoriques ou des choses comme ça. C'est vraiment la littérature qui nourrit beaucoup mon imaginaire.
Et quel lecteur êtes-vous ? Un lecteur de littérature vivante et contemporaine,
de toutes sortes, mais beaucoup de fiction et surtout un lecteur lent.
C'est peut-être essentiel d'être lent pour lire vraiment.
Je ne sais pas, mais le fait est que je suis assez lent.
Thomas Clair, dans le toast auquel j'ai pu assister, vous avez lu un poème de Mallarmé qui s'appelle justement « Toast », écrit en 1893. Est-ce que vous pouvez nous le lire ou nous le dire de mémoire ?
Avec grand plaisir. C'est un poème donc qui s'appelle « Toast » et que Mallarmé a prononcé au cours d'un banquet de poètes. Rien, cette écume, vierge vert, à ne désigner que la coupe, telle loin se noie une troupe de sirènes maintes à l'envers. Nous naviguons, ô mes divers amis, moi déjà sur la poupe, vous l'avant fastueux qui coupe le flot de foudres et d'hiver. Une ivresse belle m'engage, sans craindre même son tangage, à porter debout ce salut, solitude, récif, étoile, à n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile.
Mallarmé lu par Thomas Clair, et pour tout commentaire dans votre toast, vous dites que c'est un poème intraduisible, même en français.
C'est le mot que Jules Renard faisait à propos de Mallarmé, car évidemment il y a quelque chose d'étonnant à verser un toast en faisant un poème extrêmement énigmatique, qu'il faut donc relire. Et au fond, il y a l'écoute. L'écoute, et Mallarmé est un poète qui doit être... Marc Geffrio disait qu'il faut lire lentement. Mallarmé, on peut le lire et le relire des centaines de fois, et il y a toujours une signification qui résiste.
Et pendant ce temps, pendant que vous lisiez Mallarmé, Marc Geffrio, vous avez proposé une autre performance au Centre Beaubourg, qui consiste à lire collectivement l'Odyssée de Homère.
C'est ça.
Alors... Mais je n'ai entendu aucun son.
Oui, parce que c'est une lecture silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'invite des gens à démarrer une lecture ensemble, la lecture de l'Odyssée, et ensuite ils viennent quand ils veulent pour poursuivre cette lecture avec pour objectif de réussir à finir le livre durant le temps du festival. C'est pas la première fois que je fais cette lecture performée, on va dire. Je l'ai faite dans divers endroits, plutôt des musées. Donc d'habitude, ils ont un peu plus de temps pour lire le livre. Mais l'idée, c'est que la lecture ait lieu. C'est pas tant le fait qu'on l'entende ou qu'on la voit, mais qu'elle ait lieu. Et la raison, c'est que quand j'ai lu moi-même l'Odyssée relativement tardivement, il y a quelques années... J'ai eu le sentiment en démarrant le livre que quelqu'un d'autre était en train de le lire en même temps que moi, ce qui était très vraisemblablement le cas quelque part. Et j'ai eu ce sentiment tout au long du livre d'une lecture ininterrompue qui se faisait, quelqu'un qui commençait le livre alors que je le terminais, etc. Et donc j'ai voulu en fait donner à voir ou en tout cas rendre perceptible cette lecture qui avait lieu de toute manière sans moi.
Et les lecteurs qui lisent l'Odyssée tous ensemble, mais dans leur coin silencieusement, ont-ils conscience que d'autres lecteurs lisent le texte au même moment ? Et est-ce que ça change quelque chose pour eux ? Vous les avez interrogés ?
Alors oui, de les lecteurs précédents, en tout cas de performances précédentes, m'ont dit qu'effectivement ça avait affecté leur lecture, et plutôt positivement d'ailleurs. Mais oui, ils en ont conscience, puisque en fait j'insiste simplement sur le fait qu'il faut qu'ils démarrent la lecture ensemble. Ensuite, ils se croisent probablement, ils se recroisent peut-être même pas dans le musée, etc. Mais ils démarrent ensemble, donc ils ont conscience en tout cas que ce livre... est une aventure collective.
Donc il y a une résonance entre eux, même si elle est silencieuse.
Oui, et puis pour le coup, voilà, c'est un chant aussi, hein, l'Odyssée, il faut le rappeler, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est quand même l'origine, c'est de la littérature vivante, c'est un chant qui a été mis en texte.
La littérature vivante, contemporaine ou plus classique comme Homère, un autre poète va être salué, c'est Baudelaire. Vous dites, Thomas Clerc, que c'est un poète fondamental. Est-ce qu'il faut que vous précisiez pourquoi il est fondamental ?
Oh, je crois que ça coule de source.
En tout cas, une journée lui est consacrée et les francophones vont hurler parce que vous appelez ça le Baudelaire Day.
Ah, ça, c'est pas moi qui est...
Allô, Jean-Max Collard
qui est baptisé ainsi, This Wonderful Poet. Cela dit, Baudelaire était un grand anglophile et un grand angliciste puisqu'il a traduit Edgar Poe.
Oui, donc il n'y a pas de, voilà. de contresens à utiliser l'anglais dans son cas. Et puis ce soir, un événement un peu particulier, puisque Thomas Clerc, vous portez un toast à votre propre livre, Cave, qui vient de sortir chez Gallimard. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce toast que vous avez écrit vous-même ?
Et je ne sais
pas. Le toast, c'est le livre.
Oui, mais je ne sais pas encore. Donc je suis assez angoissé, ça doit se sentir, je parle très vite. Voilà, non, je ne sais pas encore, parce que la performance, si vous voulez, implique une part d'improvisation. Non, elle n'est pas prête, en fait, cette performance. Elle aura lieu tout à l'heure, à 18h30, mais j'ai quelques idées, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire.
En tout cas, le livre est là. Comment le nommer ? C'est un récit qui s'apparente à un inventaire de votre inconscient.
Oui, on pourrait dire ça comme ça. Oui, la cave étant la pièce sombre où l'on descend rarement et qui figurerait par métaphore, effectivement, l'inconscient du personnage qui est moi. Oui.
Sachant que précédemment, vous aviez écrit un texte qui s'appelle « Intérieur », vous décriviez votre appartement et tout d'un coup, vous réalisez quelques années plus tard que vous avez oublié la cave.
Voilà, c'est un livre au lapsus, en fait. C'est pour ça, ça a été le déclencheur de son écriture. C'est que comment avais-je pu oublier une pièce dans un projet aussi méthodiquement mené ? Et à ce moment-là, cette découverte m'amène à plonger dans le monde érotique, dans le monde du sexe, qui est un monde que je n'avais pas traité jusqu'à présent dans ma littérature.
C'est vrai que le texte est truffé d'images de cinéma, de tous les cinémas, même porno, de fantasmes, de fantômes. C'est aussi un jeu sur les polices de caractère. Oui. À l'intérieur de la page, certaines phrases sont écrites toutes petites. Oui. Pourquoi ? Ce sont les méandres de votre cerveau ?
Oui, c'était une façon pour moi de figurer, disons, le fait que le personnage qui est un obsessionnel est obsédé. Et donc les phrases encore plus petites sont en quelque sorte les marques de la colonisation de son esprit par les souvenirs sexuels, les fantasmes, les images excitantes, tout un ensemble de choses qui ne sont pas au même niveau que le récit premier. Le récit premier étant une descente dans la cave, avec notamment justement un rôle assez important pour les performances, car cette cave se transforme en salle de spectacle et il assiste à des numéros, de striptease un peu minables. Et donc il est invité lui-même ensuite à rejoindre les acteurs, en quelque sorte, et à faire lui-même des sortes de performances ou d'assister à des performances qui se déroulent dans ces caves infernales du sexe. Mais voilà, il y a donc un premier niveau de récit et un second niveau de récit que j'ai voulu figurer en plus petit, hein, qui sont ces espèces d'obsessions mentales, de phrases qui reviennent, d'images, et qui viennent troubler en quelque sorte le personnage et peut-être aussi un petit peu le lecteur, évidemment.
Mais cela va être un toast très impudique ce soir, du coup.
On verra.
Rendez-vous à Beaubourg. Merci beaucoup Marc Geffriot, Thomas Clerc. On vous retrouve donc tous les jours au Festival Extra au Centre Pompidou jusqu'au 19 septembre. Et pour vous lire, Thomas Clerc, c'est Cave, livre paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Marc Geffriot, Toast, le livre, rassemble l'ensemble des prises de parole que vous avez faites depuis 2011 et c'est publié aux presses du Réel. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et sur Facebook.